Swing Time 2018. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Yacht Club de Limoges. C'est une émission présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier et Dominique Gouguet. Ce sont nos experts. Et le mot n'est pas trop fort.
Expert en quoi?
Expert. Expert en jazz.
On aime ça en tout cas. Oui.
Ah ben vous voilà, on est amateur, on est amateur.
Vous nous épatez chaque fois on ressort de l'endroit. Mais comment ils font pour se souvenir de tout ça et pour connaître tout ça? Et encore, ils disent qu'ils ont plein de choses à apprendre.
On ne connaît pas tout.
Ben bien sûr.
Et non.
Alors on va passer un bon moment à vous écouter.
Eh bien bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Voilà. Ben, bonjour Martine, bonjour tout le monde.
Évident, c'est vrai, j'oublie souvent de dire bonjour, alors bonjour à tous et bonjour à vous.
Bonjour.
C'est Alain qui va commencer cette fois-ci.
Eh bien, on va continuer l'émission de la semaine dernière. Et on va revenir à Marie-Lou Williams. Alors, on avait quitté Marie-Lou Williams, compositeur de musique, arrangeur ou arrangeuse, et puis pianiste chez Andy Kirk. On va l'écouter maintenant, ailleurs que chez Andy Kirk. Même, on va ne pas l'écouter au début, on va écouter sa musique, ses arrangements, mais pas elle-même au tout départ. Et on s'était rendu compte la semaine dernière, c'était une musicienne de talent qu'on avait appelée The Little Piano Girl, qu'on avait appelée ensuite The First Lady of Jazz. Donc c'est la première dame, la grande dame là, du jazz, du moins dans l'appellation qu'on lui donnait. Eh bien, elle le composait beaucoup, elle arrangeait beaucoup. Eh bien, on va écouter quelque chose qui va surprendre, je pense, un peu les auditeurs, puisqu'elle a fait des arrangements pour beaucoup de musiciens, dont Duke Ellington, carrément. Et elle a arranger une musique d'Irving Berlin, un titre qui s'intitule Blue Skies, qu'on va commencer par écouter, qui a été enregistré à New York le 8 novembre 1943. Et elle a aussi composé une musique, qu'elle a jouée bien sûr au piano, mais qui a été un grand succès d'un autre orchestre de l'air swing, qui est l'orchestre de Jimmy Lunceford. Ce morceau s'intitule What's Your Story, Morning Glory. Donc ça, c'est sa composition, mais l'arrangement est un arrangement de Billy Moore, par contre. On écoute donc Blue Skies, puis What's Your Story, Morning Glory.
Thank you.
Ça grattait un peu, mais c'était beau. Hein.
Qu'est-ce que c'était joli.
Voilà. Alors, on avait tout même un paquet de bons solistes, puisque chez le Duke, on avait Taff Jordan à la trompette, qui fait deux solos d'ailleurs, Lawrence Brown au trombone, Skippy Williams au ténor, un trompettiste qu'on n'attendait pas là, mais il devait passer dans le coin, c'est Dizzy Gillespie qui jouait la trompette à l'aigu, Johnny Hodges à l'alto, bien sûr, et Jimmy Hamilton à la clarinette. Et alors, on avait un arrangement de Marilou Williams chez Duke Ellington, pour une raison simple, mais c'est la suite de la semaine dernière. Elle avait jeté son dévolu sur un trompettiste, Shorty Baker. Et Shorty Baker avait été embauché par Duke Ellington. Donc, elle a suivi le petit Harold de Shorty Baker. C'est pour ça qu'on la trouve dans ces parages-là. Second orchestre, c'était celui de Jimmy Lunceford, avec trois très très bons solistes, Willie Smith à la clarinette, Gerald Wilson à la trompette, et le fameux et magnifique Joe Thomas au ténor. Alors, on va tout de même retrouver Marilou Williams comme instrumentiste, comme pianiste. On va la retrouver en 1944, et en trio, elle est entourée du contrebassiste Al Lucas, et du batteur Jack Parker, l'ours, hein, c'était son surnom. Elle va enregistrer un autre de ses titres emblématiques, et on va pouvoir encore une fois apprécier son jeu plein et son swing dans un morceau intitulé « Roll'em » enregistré à New York le 7 mars 1944.
Thank you.
pianiste, Marie-Lou Williams, tout de même. Yes. N'est-ce pas? Eh bien, elle a essayé tous les genres, on s'en rend compte un petit peu. On va rester dans le même style de musique, on va l'écouter dans un boogie-woogie qu'elle a composé et qui s'appelle, bien sûr, Marley's Boogie, enregistré à New York le 19 avril 1944. C'est pas la percussion d'Albert Hammond, hein, mais...
Ah oui,
mais c'est bien tout de
c'est
même.
Bien, oui.
Elle n'est pas ridicule dans le style, évidemment. Alors, on est dans les années 40 et Marie-Lou Williams est en pleine recherche existentielle. Elle se tourne de plus en plus vers la religion, je l'avais évoqué la semaine dernière. Elle va s'égarer du côté du bebop, je l'avais dit aussi. Elle a divorcé de son premier mari, John Williams, mais elle garde le nom de ce premier mari tout de même. Et puis elle a épousé, j'ai dit tout à l'heure, Harold Shorty Baker. Et je dirais que voici le résultat de cette quête existentielle dans un titre qui n'est peut-être pas choisi au hasard, puisque ça s'intitule « Out of Nowhere ». Mm-hmm. je précise aux nombreuses personnes qui ont appelé que le disque a été enregistré à New York le 11 juillet 1952. J'avais oublié de le dire, je suis profondément désolé. Alors, je vais tout de même dire aussi quels étaient les musiciens qui étaient avec Marilou. Au ténor, Maurice Lane. À la guitare, Neville Jones, c'est pas les plus connus. Au trombone, nettement plus connu, V.E. Dickinson. Et bien sûr, le trompettiste, c'était Shorty Baker, qu'elle avait embauché dans son orchestre. Ça paraît logique. On est d'accord. Alors, notre petite little piano girl, je fais un pléonasme, hein, petite little, c'est pareil. Bien, Marilou Williams va être un peu perdue pour le jazz pendant pas mal d'années, car elle va composer des musiques destinées à Carnegie Hall, mais version temple de la musique symphonique ou contemporaine. Elle va côtoyer tout ce qui se fait de nouveau en matière de bop, Thelonious Monk et d'autres, si bien qu'il faudra attendre de nombreuses années ou des moments d'exception pour la retrouver dans notre idiome musical, bref, dans le swing. Par exemple, elle est de passage à Paris en 1954, il y a un titre qui peut nous satisfaire, c'est un blues d'ailleurs très connu, assez classique, qui s'intitule Freight Train Blues, donc le blues du train de marchandises. C'est un disque club français du disque, monsieur, dame, tout de même, enregistré à Paris, donc en 1954. Jazzman et jazzwoman, évidemment, Marilou Williams savait jouer le blues.
Oui.
Elle l'a démontré à nouveau. Et on avait une section rythmique composée de Buddy Banks à la basse et de Kansas Fields à la batterie. C'était l'époque où Kansas Fields avait l'intention de résider longtemps en France.
Oui, il a vécu un petit moment en
voilà.
France.
Voilà. C'était cette époque-là, à l'époque de Sidney Bechet aussi, donc ils se retrouvaient souvent tous les deux. La chanteuse, il faut que je la présente, puisqu'il s'agit d'une chanteuse anglaise, donc elle a plus l'accent cockney, quoique même pas, que parler, le parler jive de Harlem, c'est Beryl Braden. Elle a mené une carrière continue, quoique discrète, elle n'est pas la plus connue dans le jazz. Elle jouait aussi du washboard, donc elle était sur scène avec sa petite planche à laver. Elle jouait du washboard, excusez-moi mesdames, j'y peux rien, c'est elle qui avait sa planche à laver, c'est pour moi qui l'accuse. Et elle était la chanteuse d'un orchestre type Dixieland anglais qui était Chris Barber, Ella Fitzgerald devait l'apprécier puisqu'elle l'avait qualifiée de Britain Queens of the Blues, la reine anglaise du blues. Donc il y a deux reines en Angleterre, il y a Elizabeth II qui a peut-être le blues mais qui ne chante pas le blues, et puis il y a Beryl Braden, c'est elle qu'on a entendue, Beryl. Pas babette, hein, évidemment. Alors, ça et là, on va retrouver du vrai jazz avec Mario Williams. Un exemple avec un titre qui est bizarre, que j'expliquerai tout à l'heure, qui est une composition de la main de Mario Williams. Alors, vous faites attention, il y a une petite coupure au milieu du morceau. N'accusez pas Martine, elle y est strictement pour rien. C'est la faute du CD qui coupe en deux. Martine, tu travailles très bien, on le sait, on te rend grâce. Tu as toutes nos louanges et tu nous passes Chuck Lug Chuck qui est enregistré à New York en juin 59. Petite précision que j'avais promise tout à l'heure, précision linguistique, Chuck a Lug Jug, qui était le titre du morceau, ça veut dire boire cul sec, comme si on avait avalé tout le flacon de whisky. Ouais. Ah ouais. Jug, c'est un flacon, d'un seul trait. Théoriquement, jug, Chuck a Lug Jug, c'est même un flacon.
C'est une onomatopée,
c'est une onomatopée, ouais. Tout à fait. Et c'est même le flacon de whisky en argile, en terre, avec un manche qui est un mandrin plutôt. Et donc, ça se verse rapidement dans le gosier. Voilà. Chocolat jug, chocolat, boire cul sec. Mais personne ne fait ça ici.
On ne sait pas faire.
Non, on ne sait pas faire, évidemment. Voilà.
On n'a pas le flacon.
La précision est donnée. On n'a pas le flacon. Voilà, pas le bon flacon.
On n'a pas l'ivresse.
Voilà. Alors, quand j'ai dit du whisky, c'est peut-être plutôt du bourbon. Mais enfin bon, on ne va pas disserter sur le nombre de distillations. Hein. On n'est pas là pour ça. Voilà.
Vous n'êtes pas expert.
On est amateur. Si on n'est pas expert. À la fin de sa carrière, Mario Williams revenait plus souvent déjà de ses origines. On a des disques, les plus récents sont meilleurs que les disques de milieu de carrière, si je peux dire. Elle a retrouvé en partie ses racines. Et étant donné toute sa production en tant que compositrice, elle pouvait reprendre tous les morceaux qu'elle avait pu écrire. On va prendre comme exemple un morceau qu'on a entendu tout à l'heure en début d'émission par Jimmy Lunceford. Nous écoutons à nouveau Watch Your Story, Morning Glory, enregistré à Chicago le 14 novembre 1979. C'est en public, on entend quelques applaudissements. Voilà. Alors, après tous ces morceaux, vous avez compris que le surnom donné à Mary Lou Williams, Little Piano Girl, n'était pas usurpé. Pas plus que celui de First Lady of Jazz, même si à un moment donné, elle n'était plus à First Lady, elle était partie un petit peu loin. Elle a laissé donc une œuvre musicale majeure, multiforme, dont une bonne partie appartient à notre jazz, en particulier toute la période chez Andy Kirk. Et comme il n'y a pas tellement d'artistes majeurs dans le jazz qui soient une femme pour que l'on néglige, Mary Lou Williams. Il y en a peu. Fait. Tu es d'accord?
Complètement.
Bon, Dominique aussi, tu es d'accord?
Ah ben absolument.
On est tous d'accord. C'est... Bon, elle a donc su s'imposer dans un monde qui était très machiste par le seul vecteur de son talent. Ce n'est pas simplement son aspect, c'était son talent qui était important. Et ça valait bien une émission en hommage à sa musique et à ses arrangements. Et on peut dire à la fin, thank you, little piano girl.
Vraiment, c'est vrai.
Voilà, eh bien, bravo Alain.
Et maintenant qu'on a écouté Mary Lou Williams, on va écouter un autre grand musicien de jazz. Là, c'était une grande musicienne, un grand guitariste, Tiny Grimes. Ouais. Dominique, c'est à toi.
Et oui, c'est un grand maître de la guitare électrique, donc la suite de l'émission de la semaine dernière. On était dans les années 40. Eh bien, à la fin des années 40, Tiny Grimes constitue un quintet régulier, les Rockings Highlanders, constitué ainsi. Guitare, ténor, basse, batterie, qui préfigure la formule type des futurs groupes de rock'n'roll. Entre 1950 et 1954, il enregistrera ainsi de nombreuses et excitantes gravures, dont cet hamptonien « Call of the Wild ». Sur cette période, il gravera 5 versions de Frankie and Johnny. Voici l'une d'elles où Tiny est vraiment irrésistible. Frankie and Johnny. Terminé avec les Rockin' Highlander, voici Rocking the Blues Away, où une fois encore, Tiny se montre impérial sur le blues. Curieusement, après 1954, Tiny attendra 4 ans pour revenir dans un studio d'enregistrement. Il gravera en 1958 des recueils exceptionnels pour le label Prestige. Je vous propose l'extrait de l'un d'eux avec Jesse Higginbotham au trombone, Eddie Davis au ténor, Ray Bryant au piano, Wendell Marshall à la basse et Ozzie Johnson à la batterie. Dans Calling the Blues, qui donne son titre à cet album, Tiny prend 8 choruses de guitare à l'invention jamais démentie, développée à la perfection et d'un grand swing, et les autres solistes sont à l'unisson du grand guitariste à l'instar du solo de Jesse Higginbotham. Calling the Blues. ... Beaucoup d'autres albums suivront ces derniers, et dans le recueil Triple Play de Johnny Hodges, enregistré en janvier 1967 à New York, ce dernier se confronte à Tiny Graham sur un superbe blues lent, A Tiny Bit of Blues, et tous deux font jeu égal dans l'interprétation du blues dont ils sont des représentants émérites. Au milieu des années 60, Tiny débute des tournées européennes couronnées de succès. J'ai choisi un titre d'une remarquable séance du 22 octobre 1970 par le label Black & Blue de Jean-Marie Monestier, où Tiny était entouré de George Kelly au ténor, J. McShane au piano, Elvis à la basse et Paul Gunther à la batterie. Écoutant Food for Thought, superbe et surprenant solo, Tiny change de tonalité quasiment toutes les 8 mesures. Food for Thought. Lors d'une autre tournée européenne en 1974, ce même label Black & Blue enregistra abondamment Tiny Grimes. Pour terminer cette évocation de ce merveilleux musicien, voici Lil Darling, rendu célèbre par Count Basie. On appréciera l'exposé en accord et la sonorité délectable de Tiny, qui est entouré ici de Loy Glenn au piano, Roland Lobigeois à la basse et Panama Francis à la batterie. Lil Darling. Thank you. Les CD de ce merveilleux guitariste sont abondants et de grande qualité. On peut les retrouver sur les sites de vente de CD sur Internet. En conclusion de cette émission, je voudrais citer un extrait d'une chronique de Jacques Morgantini sur Tiny Grimes concernant son attitude sur scène. Entre parenthèses, Jacques Morgantini a décrit mieux que quiconque dans nombre d'articles l'œuvre et la personnalité de Tiny Grimes. Alors voici ce qu'il dit. C'était prodigieux de voir cet homme recueilli, si calme en apparence, mais que l'on sent dévoré par un feu intérieur, créer une musique d'une telle richesse, avec une inspiration sans faille et sans limite. C'est le contraste entre ce calme recueilli et le swing impétueux, torrentiel de sa musique qui a contribué à subjuguer l'auditoire. Il faut souligner en outre que ses gestes dépouillés d'une grâce et d'une élégance rares ont atteint la perfection dans l'efficacité. Il est fascinant de le voir exécuter de larges moulinets de la main droite lorsqu'il joue des trilles pour faire monter la tension. Malgré la sobriété de ses gestes, on ne peut imaginer spectacle plus de jazz, car cet homme, faisant corps avec sa guitare, a su éliminer tout geste parasitaire qui viendrait, dans son cas, ternir la pureté de son comportement sur scène, bref, ternir son swing corporel finalement très intense. Et à l'audition directe, Tiny Grimes a fait à ses plus fervents admirateurs une impression inoubliable. Et moi, je confirme ces dires. Et à propos de Jacques Morgantini, on va signaler la sortie d'un coffret Chicago Blues Box numéro 2. Il s'agit du second coffret luxueusement illustré de séances d'enregistrement de grands bluesmen de Chicago, Jimmy Dawkins, John Little John, Eddie Taylor, Magic Slim, etc., etc., réalisé par Marcel Morgantini à Chicago dans les années 70 pour sa marque MCM Blues Records. Il contient 8 CD de ses séances historiques avec une quinzaine de titres inédits de tous ses artistes. Pour tout renseignement, on peut écrire ou téléphoner à Jacques Morgantini, 7 rue du Padouin, P-A-D-O-I-N, 64 290 Gand, G-A-N, téléphone 06 86 01 42 44 et le mail morgantini, M-O-R-G-A-N-T-I-N-I, point Jacques, arrobas gmail, M-A-I-L, point com.
Tout est dit.
Absolument, là.
Swing Time 2018. Nous avons passé de beaux moments.
Et ça va continuer.
Et ça va continuer.
Bien sûr.
Et on n'est pas au bout de nos surprises.
Et non, et on ne fait que commencer l'année.
Et on ne fait que commencer. Une belle année à tous, une belle année à tous.
Et au revoir à tout le monde.
Voilà.
Et à bientôt.
Bonne année encore à tout le monde et à bientôt.